Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition du journal sur Radio Kapi. Commençons par les titres. Otouélé, les éleveurs Mbororo appelés au cantonnement et à l'identification par l'armée. Le général pacifique Massounzou, commandant de la troisième zone de défense, les accuse de menacer la paix locale en quête de terres de pâturage. Kinshasa, Matadi, reprise du trafic après 3 semaines de grève des camionneurs. Le mouvement avait fortement perturbé l'approvisionnement de la capitale, a été levé ce vendredi 13 juin. Un véritable soulagement pour les opérateurs économiques et les consommateurs. Atelier de formation pour les communicateurs politiques. Majorité et opposition s'engagent pour une communication éthique. Signature d'un code de bonne conduite est intervenue jeudi dernier. Entretien dans ce journal avec Christian Moleka, coordonnateur de la dynamique des politologues. Restez à l'écoute pour ne rien manquer. Nous ouvrons ce journal avec un appel lancé aux éleveurs Mbororo dans la province du Haut-Ouélé. Le commandant de la troisième zone de défense, le lieutenant-général Pacifique Massounzou, les invite à rejoindre la localité des Nambia dans le territoire des Nyangara pour y être cantonné et identifié. Cet appel a été lancé la semaine dernière lors de la mission du général dans la région. Objectif, encadrer cette communauté pastorale souvent en déplacement dans un contexte sécuritaire jugé sensible. Plus de précisions dans ce reportage signé Jacques Moukonkole.
L'afflux des éleveurs Mbororo dans les Ouélé date depuis plus d'une décennie. Certains parmi eux détiennent illégalement des armes à feu, déclare le coordonnateur du service de communication de la troisième zone de défense. De ce fait, précise le major Nessor Mavoudissa Kamba, ils menacent la paix des Congolais en vue d'obtenir des terres pour le pâturage de leur bétail. Ce comportement a toujours été décrié aussi bien par la population que par les autorités coutumières. Tenant compte de ce cri d'alarme, les autorités congolaises ont décidé leur cantonnement et leur recensement à Nyangara. Objectif poursuivi, leur assurer la sécurité et permettre à l'État congolais de contrôler toute activité exercée sur son sol. À cet effet, le commandant de la troisième zone de défense a réuni les représentants des Mbororo et des FRDC le 12 juin dernier à Nambia pour sensibiliser ces transhumants Mbororo en vue de leur cantonnement. Le major Nessor Mavoudissa prévient les récalcitrants.
L'autorité demande aux porteurs illégaux d'armes de guerre de les déposer volontairement auprès des services habilités, car après ces délais de sensibilisation, les forces armées de la République démocratique du Congo se verront obligées de désarmer leurs récalcitrants et éventuellement de les déférer devant des instances judiciaires.
Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Et dans le cadre de l'opération des cantonnements des éleveurs Mbororo, le commandant de la troisième zone de défense, le lieutenant-général Pacifique Massounzou, exhorte la population du Haut-Ouélé et plus particulièrement celle du territoire des Nyangara à coopérer pleinement avec les forces de défense et de sécurité. Selon lui, cette collaboration est essentielle pour garantir le bon déroulement de l'opération et renforcer la stabilité dans la région. Direction le Nord Kivu, où les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont procédé jeudi dernier à Butembo à l'arrestation de Kasereka Kassiano, alias Kabido, chef autoproclamé du groupe armé Front des Patriotes pour la Paix, armée du peuple FPP-AP, selon des sources administratives et de la société civile locale. Cet ancien chef Maïmaï, actif et redouté depuis plusieurs années dans le territoire de Lubero et Beni, avait prêté allégeance au mouvement Rebelle M23 en mars 2025. Après son interpellation, Kabido a été transféré à Beni, puis conduit à Kinshasa d'après le coordonnateur des volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo Front Nord, cité par nos source. À ce stade, aucune réaction officielle de l'armée n'a encore été enregistrée. Comme indiqué dans les titres, à peu plus de 3 semaines de paralysie, le camionneur opérant sur l'axe Kinshasa-Matadi ont levé leur mouvement de grève. L'annonce a été faite hier samedi par le ministère de l'économie nationale dans un communiqué parvenu à Radio Okapi. Selon ces documents, cette reprise est le fruit de l'implication active du gouvernement qui salue la fin d'une crise marquée par des tensions persistantes et des négociations difficiles. Le trafic entre les deux villes a officiellement repris ce vendredi 13 juin, mettant un terme à une situation qui avait fortement perturbé l'approvisionnement de la capitale congolaise. Un soulagement pour les opérateurs économiques et les consommateurs durement touchés par les conséquences de ce blocage. Grâce à Mouzati pour Radio Okapi.
Le ministère de l'économie affirme que l'intervention directe du gouvernement central a permis de débloquer les négociations entre les délégations syndicales des camionneurs et les autorités provinciales de Kinshasa. Les chauffeurs en grève dénonçaient l'insécurité persistante sur la route nationale numéro 1, les conditions de travail précaires, la multiplication des taxes ainsi que le non-respect des accords précédemment signés. Alors que les prix des produits de première nécessité récemment stabilisés menaçaient de flamber à nouveau, le gouvernement central est intervenu pour éviter une nouvelle crise économique et sociale, souligne la même source. Une délégation interministérielle a conduit les dernières négociations. Celles-ci ont abouti à un compromis salué par toutes les parties, marqué par la reprise immédiate des activités de transport et l'adoption de mesures claires et concertées. Parmi les dispositions de cet accord figurent, entre autres, l'autorisation pour tous les camions d'entrer dans la ville de Kinshasa entre 22h et 5h du matin, afin de fluidifier le trafic et minimiser les embouteillages. Les camions déjà entrés dans la capitale pourront circuler, livrer et sortir librement dans le strict respect du code de la route, tout en évitant de stationner ou livrer sur la voie publique. La mise en place d'un dispositif spécial par l'exécutif provincial en collaboration avec la police pour garantir le respect des règles de circulation et la sécurité des usagers.
Ituri, la société civile Force Vive de Mungwalu, une entité minière située à 85 km au nord-ouest de Bunia dans le territoire de Djougou, tire la sonnette d'alarme sur la dégradation avancée de 3 ponts situés sur l'axe routier Nizi-Mungwalu, long de 50 km. Dans une déclaration faite hier samedi, cette structure citoyenne cite le pont Sao, Bwanga et Likelike qu'elle juge en état de délabrement critique. Selon elle, ces ouvrages risquent de s'effondrer à tout moment si aucune mesure urgente n'est prise. Le président de la société civile locale, Chérubin Koko Dilaou, affirme que plusieurs accidents ont déjà été enregistrés sur ces infrastructures vétustes, mettant en danger la vie des usagers. Il appelle les autorités compétentes à intervenir sans délai pour éviter une catastrophe et préserver cette route d'importance sociale et économique majeure pour la région. Chérubin Koko Dilaou s'est exprimé au téléphone avec Martial Kizabiamungu.
Pour le pont Sao, c'est un pont qui avait été jeté sur la rivière du même nom. Et ce sont juste les troncs d'eucalyptus qu'on y avait jetés. On a essayé de mettre des traverses. On y a mis des traverses en voluge. Le pont est en état de délabrement vraiment avancé. Ce qui serait mieux, ce serait d'envisager dans les jours à venir la construction d'un pont qui peut répondre au moins aux normes avec des matériaux qui sont de la nouvelle technologie. Cela peut aider. Parfois, cela pose problème aux transporteurs parce qu'au niveau du pont Sao, par exemple, à Kakilo, plusieurs fois, il y a eu des cas d'accident au niveau de ce pont. Et même sur le pont Bwanga, il y a déjà des véhicules parfois, suite à la dégradation des platelages, du fait que c'est fait en bois aussi, les platelages sont faits à bois, il y a des fois qu'il y a des véhicules qui s'embourbent sur le pont. Comme plaidoyer que nous pouvons lancer, c'est vraiment songer. Pour ce qui est du pont Bwanga, par exemple, songer à y mettre des platelages à...
À ce stade, aucune réaction officielle des autorités n'a encore été enregistrée. Au Katanga, la DRC Mining Week s'est tenue du 11 au 13 juin à Lubumbashi, rassemblant les principaux acteurs du secteur minier en RDC. À cette occasion, les agences du système des Nations Unies basées à Lubumbashi ont marqué leur présence à travers des stands d'exposition, mais aussi par des interventions thématiques. Parmi les sujets abordés, la question du respect des droits de l'homme dans l'exploitation minière a occupé une place centrale. Les agences onusiennes ont profité de cette tribune pour sensibiliser les participants aux enjeux liés à la responsabilité sociale, à la protection des communautés locales et à la durabilité dans les secteurs extractifs. Omar Samak, responsable du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, revient sur cette participation. Il a été joint par Jean Gandou.
L'un des acquis de ce forum, c'est que nous avons beaucoup mis l'accent sur la problématique des impacts environnementaux sur les communautés. Les impacts environnementaux liés à l'exploitation minière, en ce qui concerne la question de la santé, en ce qui concerne la question de l'éducation, en ce qui concerne la question de l'agriculture, les problématiques liées à la déforestation, nous avons mis l'accent sur ces problématiques qui sont la résultante, n'est-ce pas, de la nécessité pour les parties prenantes de faire des minerais critiques, le cobalt vert ou le cuivre vert, ce qu'on appelle l'exploitation verte. Ces questions ont trouvé des réponses simples dans les politiques de diligence raisonnable en matière des droits de l'homme. Nous avons aussi fait le plaidoyer avec le gouvernement, avec les entreprises minières, avec la société civile pour avoir une relation apaisée entre les communautés affectées par l'exploitation minière et les entreprises. C'est à ce seul prix que nous pourrions avoir ce qu'on peut appeler une exploitation verte. Ce travail-là a été fait par BCNUDH plus les autres agences qui sont venues pour renforcer le leadership des Nations Unies dans ce secteur.
Ce journal se poursuit sur Radio Capi à quelques heures de la clôture de la session ordinaire de mars 2025. L'Assemblée nationale a examiné ce vendredi deux propositions de loi dont l'une porte sur la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo, initiée par le député national Antoine Tabala. Cette proposition vise à doter le pays d'un cadre légal pour mieux prévenir et prendre en charge cette maladie génétique. Selon l'élu, la RDC figure parmi les pays le plus touché au monde par la drépanocytose, occupant la deuxième place en Afrique juste après le Nigeria. Grâce à Mzati pour le détail.
Pour cet élu de Tiangwa Kinshasa, il paraît plus urgent de combler le vide législatif constaté qui rend difficile la mise en place d'une prévention efficace et d'une prise en charge adéquate de la drépanocytose. Antoine Tabala.
La drépanocytose ou anémie SS est la première maladie génétique en République démocratique du Congo. Elle constitue un sérieux problème de santé publique, une menace pour l'unité et la stabilité de la famille, mais également une cause de vulnérabilité. Nous avons affaire non seulement à la maladie, mais également à ses conséquences.
Parmi les innovations apportées, son auteur souligne la mise en place d'un cadre institutionnel et financier adapté au financement public et privé pour la lutte contre la drépanocytose, ainsi que l'encouragement à la recherche scientifique sur le dépistage, ainsi que sur les traitements innovants et curatifs, mais aussi le renforcement de la prévention en rendant obligatoire et gratuit le dépistage prénuptial et néonatal, tout en intégrant les campagnes de sensibilisation sur la drépanocytose. La seconde proposition des lois examinée et déclarée recevable est celle modifiant et complétant la loi du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, portée et défendue par les députés nationaux Célestin Engele Mbabokoué.
L'actualité sanitaire en RDC, c'est aussi la clôture ce samedi 14 juin à Kinshasa d'un atelier de 5 jours consacré à l'élaboration du nouveau plan de communication stratégique du programme élargi des vaccinations PEV. Organisé du 9 au 14 juin, cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement de la stratégie nationale de vaccination. Les travaux ont réuni des cadres du ministère de la Santé publique, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des responsables de communication des divisions provinciales des santé de 8 provinces dont le Haut-Katanga, la Tchopo, le Maniema, le Tanganyika et le Kasaï central. Objectif, concevoir un plan quinquennal visant à améliorer la mobilisation communautaire, renforcer la confiance du public et faciliter l'accès à la vaccination sur l'ensemble du territoire national. Le docteur Bienfait Kisamba, gestionnaire adjoint des projets en appui à la vaccination au sein de son rue RDC, revient sur les enjeux de cet atelier. Il s'est exprimé au micro de Calvin Baeni.
Les 5 premiers jours, c'était consacré à l'élaboration d'un plan stratégique de communication qui accompagnera la stratégie nationale de vaccination de la RDC. À ce jour, nous pouvons vraiment nous féliciter d'avoir déjà un document stratégique qui sera intégré à la stratégie nationale qui est en cours de finalisation. Et pour ce qui est du guide qui va accompagner les zones de santé dans l'élaboration de leur plan de communication centré sur l'humain, déjà à ce jour, nous avons déjà un guide finalisé qui nous avons travaillé ensemble avec les collègues qui sont venus des provinces. Après cette étape, les experts du niveau national d'IPEV vont descendre dans les provinces pour accompagner les provinces et les zones de santé à maintenant élaborer le plan de communication qui nous aidera surtout à identifier et à récupérer les enfants zéro dose et sous-vaccinés. Comme c'était un plan de communication intégré, ça fera aussi allusion aux autres pratiques familiales essentielles.
Ce nouveau plan stratégique qui s'étendra sur la période 2026-2030 vise à appuyer les efforts du gouvernement congolais en matière de santé publique. Il ambitionne d'améliorer la couverture vaccinale, de prévenir les épidémies, des maladies évitables et de sauver des vies, en particulier celles des enfants. Restons à Kinshasa. À l'occasion de la Journée internationale des pères, célébrée chaque 15 mai, une activité de sensibilisation sur les violences faites aux hommes par les femmes s'est tenue ce samedi. L'événement a eu lieu dans la commune de Massina, au siège de l'ONG Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme. Cette initiative vise à briser le silence autour d'un phénomène souvent ignoré dont les débats publics et à promouvoir une prise de conscience collective sur les violences conjugales subies par les hommes. Ben Chokuta y était, voici son reportage.
La violence n'a pas de genre. C'est le message que veut faire passer ALVHF ONG à l'occasion de la journée de pères. Elle a réuni hommes et femmes pour parler d'une réalité souvent ignorée, les violences subies par les hommes au sein de foyers ou dans la société. Pour Georgine Gakumbi Manango, présidente de l'ONG, il est temps de restaurer la place de l'homme.
Nous voulons valoriser les papas. Nous voulons reconnaître que les papas, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui le chef, c'est lui le premier pasteur de la femme et de la famille. Nous voulons aussi travailler pour l'équilibre. Si nous voulons combattre l'insécurité, combattre la pauvreté, l'homme et la femme doivent être en équilibre social.
Certains participants ont reconnu que les femmes peuvent aussi parfois franchir la ligne rouge.
Ce qu'on vient de dire, c'est la réalité qui se passe sur le terrain.
Il y a des mamans, par exemple, quand on demande quelque chose chez papa, par exemple l'argent pour aller au marché, quand papa lui dit non, je n'ai absolument rien, maintenant ça devient la bagarre.
Présent à l'événement, un représentant du ministère du genre, famille et enfants, Makir Kaka, a salué l'initiative et promis de faire un plaidoyer pour que ce type d'action bénéficie d'un soutien institutionnel. Il a invité hommes et femmes à dénoncer toute forme de violence, quelle qu'en soit l'origine.
Maniema, 123 femmes vulnérables formées à Kindu pour leur autonomisation, parmi lesquelles des filles mères, des femmes abandonnées, stigmatisées ou victimes de violences sexuelles. La formation de 8 mois s'est clôturée jeudi dernier à Kindu grâce à cette initiative portée par l'Église méthodistes unis au Congo-Est. En partenariat avec plusieurs organisations, ces femmes, autrefois marginalisées, sont désormais capables de subvenir à leurs besoins. Le programme de formation comprenait des modules en alphabétisation, coupe-couture, ainsi qu'en pâtisserie, une manière concrète de leur redonner confiance et dignité, tout en favorisant leur insertion socio-économique. Un reportage de Florence Kizalunga depuis Kindu.
La fin de cette formation est considérée comme une délivrance pour ces femmes. L'une d'elles, Osenga Marie-Joséphine, fille mère abandonnée, exprime sa joie.
En tout cas, moi, je remercie beaucoup le centre Maman Aline. Je ne savais rien, mais arrivant d'ici, je connais parler le français, écrire, je connais préparer les beignets, les savons, je sais coudre les habits, je sais aussi préparer les soumamousses et d'autres choses. En tout cas, je vais me prendre bien en charge dans ma vie. Et ma famille aussi va en bénéficier, ce que j'avais fait ici.
Pour la directrice du centre Maman Aline, les besoins se font encore sentir, d'où son appel aux hommes de bonne volonté. Docteur Marie-Claire Manafundu.
Une grande joie de voir ces mamans-là être capacitées sur plusieurs aspects de la vie. Nous sommes en train d'étendre toujours la main, parce que là, les besoins se font sentir. Alors maintenant, là, nous sentons que en dehors de cette récupération que nous faisons avec les élèves ici au centre Maman Aline, donc il y a un besoin de élever leur niveau selon leur attendement. Nous voulons l'appui déjà des bienfaisants pour qu'ils viennent nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire.
Signalons que le Centre Mama Lean, avec le financement de ses partenaires, a remis à chaque participante un kit de démarrage. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Une attaque d'une rare violence a endeuillé le village de Yeliwata dans l'état de Benue au centre du Nigeria dans la nuit de vendredi au samedi 14 juin. Selon plusieurs témoins, des hommes lourdement armés ont pris d'assaut la localité, ouvrant le feu et incendiant de nombreuses habitations. L'attaque menée de manière coordonnée par trois groupes ayant encerclé le village a semé la panique parmi les habitants. Les forces de sécurité présentes sur place ont été rapidement débordés. Des maisons et des boutiques où dormaient encore des civils ont été ciblés. Du carburant aurait été versé sur certaines portes avant d'y mettre le feu, piégeant des familles entières dans les flammes. D'autres victimes ont été abattues alors qu'elles tentaient de fuir. Parmi elles, de nombreuses personnes déplacées venues se réfugier à Yeliwata après avoir fui les violences croissantes dans les villages environnants.
L'invité.
La dynamique de politologue d'IPOL, une organisation de la société civile, a organisé la semaine dernière à Kinshasa une session de formation à l'intention des communicateurs des partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Cette initiative visait à promouvoir une communication politique éthique et apaisée. Au point d'orgue de cette formation, la signature solennelle d'un code de bonne conduite intervenu jeudi dernier au Centre d'études pour l'action sociale. Les participants ont exprimé leur volonté de vulgariser ce document, symbole de leur engagement en faveur d'un discours politique plus responsable. Pour en parler, nous recevons Christian Mouleka, coordonnateur de la DIPOL. Il s'est entretenu avec Étienne Lissoumbo. Suivez.
Christian Mouleka, bonjour.
Bonjour.
Durant deux jours, les DIPOL, en partenariat avec la MONUSCO et les centres CEPAS, a organisé un atelier de renforcement des capacités des communicants politiques. De quoi était-il question?
Il était question de renforcer en capacité, en communication, les communicateurs, notamment sur la communication constructive. Nous sommes dans un contexte politique très particulier de notre histoire et il est nécessaire aujourd'hui de travailler à l'apaisement. Et l'un des moyens de travailler à l'apaisement, c'est le vecteur de la prise de parole publique pour ceux qui sont appelés communicants. Et donc nous avons essayé de leur rappeler la responsabilité qu'ils ont dans la production de discours, dans la diffusion de la désinformation, et comment ensemble on peut faire de la communication un vecteur de cohésion. Et donc durant ces deux jours-là, nous avons insisté également sur le recours aux langues nationales, sur les fact-checking, comment ils peuvent eux-mêmes vérifier une information pour qu'ils ne tombent pas dans le piège soit de la diffusion, soit du sharing, comme on dit, du partage de la désinformation. L'objectif pour nous, c'est d'atténuer la violence produite par le débat public dans les contextes très fragiles dans lesquels nous sommes, mais c'est également d'assainir les débats publics pour que nous ayons un débat qui ne tourne pas autour des injures et des personnes, des colibés, des informations, mais qui tourne autour d'un contenu qui répond aux préoccupations des Congolais, qui tourne autour des projets, des idées, et qui permettent à ceux qui sont à la maison et qui suivent de faire de la télé un lieu d'apprentissage, d'information et d'éducation civique, et pas un lieu qui sème la violence, qui sème la haine, qui tient le discours de division ou qui entretient la fragilité sociale.
Après ces deux jours de formation, êtes-vous satisfait des résultats?
Très satisfait par rapport à l'engagement, parce que notre formation se clôture aujourd'hui par une signature d'un code de bonne conduite, qui est un acte d'engagement pris individuellement par les communicants. Le fait qu'ils aient adhéré à cette démarche prouve que notre message est quand même passé. Et nous espérons maintenant qu'au sortir d'ici, ils vont travailler chacun à mettre en œuvre ce dont ils ont signé.
Après que les communicants aient signé aujourd'hui les codes de bonne conduite, qu'attendez-vous d'eux?
On attend donc d'améliorer leur pratique de communication. C'est-à-dire, de demain, dès qu'ils seront sur un plateau, ils éviteraient cet acte personnel, ils respecteront leurs co-débatteurs, ils ne seront pas dans la désinformation ou même dans le partage de la désinformation, qu'ils seront dans la retenue et qu'ils travailleront à construire la cohésion dans leur discours. Nous attendons qu'ils améliorent la pratique. Nous attendons également qu'ils vulgarisent le code, qu'ils invitent d'autres communicateurs qui n'ont pas rejoint la formation. Je rappelle quand même que nous avons travaillé avec 27 partis politiques dans un pays où il y en a pratiquement plus de 900. Donc ça peut paraître comme une goutte d'eau dans l'océan. Donc ils sont pour nous des ambassadeurs de ce message et ils pourront participer à le relayer tant au niveau de la formation politique, mais également au niveau des plateaux et des médias où ils sont invités.
Alors vous de votre côté, à part les communicants, vous de votre côté, en tant qu'organisateur de l'activité, comment comptez-vous vulgariser cela? Parce que tous les partis politiques ne sont pas ici présents. Mm-hmm. Comment comptez-vous vulgariser ça pour faire attendre même les ceux qui ne sont pas venus?
Déjà, nous sommes en train de préparer un projet de plaidoyer qui sera élaboré à l'intention des partis politiques. Donc nous allons retourner vers les partis politiques, premièrement, qui ont envoyé leurs délégués, pour les remercier et pour partager avec eux l'expérience qui a été vécue ici. Nous allons travailler à mettre également de sous-produits de formation pour certains partis politiques afin de répliquer les modules au sein des partis politiques. Mais après, nous allons également travailler à vulgariser le document en les mettant d'ailleurs dans toutes les langues nationales, nos toutes plateformes, mais également par voie médiatique. Donc il y a un vrai travail qui va se mettre en œuvre, y compris par une stratégie numérique, pour rencontrer les acteurs des partis politiques, mais également vulgariser le document.
En quelques mots, quel message vous donnez aux communicants?
En quelques mots, le débat politique n'est pas de la guerre. Le débat politique est un lieu de construction, certes d'opposition, mais de construction. Chacun devrait venir responsablement vendre ses idées pour convaincre les Congolais et non pas vendre de la violence. Nous invitons les communicateurs à de la responsabilité, à de la retenue, à la mesure. Lorsqu'on prend la parole, dans le contexte dans lequel nous sommes, on a une responsabilité pour travailler à la cohésion. Et chacun doit être à même d'apporter un élément d'apaisement pour que nous allions vers un climat d'apaisement et de cohésion.
Christian Moleka, la Radio Okapi, vous dit merci.
C'est moi qui vous remercie.
Christian Moleka, coordonnateur de la dynamique de Politologue, s'est exprimé dans une interview exclusive accordée à Étienne Lissoumbou. Il est revenu sur les enjeux de la communication politique en RDC, l'importance du code de bonne conduite récemment signé par les communicateurs de partis politiques ainsi que sur les perspectives d'une culture politique plus responsable et apaisée. Ainsi s'achève ce journal sur Radio Okapi. À la mise en onde, Pierre Diassinois, à la coordination Jacques-Yves Molima, supervision Alain Héron, et à la présentation Gisèle Cage. Restez connectés avec nous sur WhatsApp via les liens disponibles sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Merci de votre fidélité à Radio Okapi et à très bientôt pour une nouvelle édition.